pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.
Bonjour Anne, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pause Musicale.
Bonjour Jean-Luc et bonjour à tous. Alors, quel thème allons-nous découvrir aujourd'hui ?
Ah, voilà un thème très intéressant. Les compositeurs français qui ont longtemps été reconnus pour leur contribution à la musique classique et contemporaine, je dirais depuis le XVIIIe siècle. Eh bien, la France a été le berceau de nombreux grands compositeurs tels que Jean-Baptiste Lully, Berlioz, Ravel, Saint-Saëns, Chopin et encore plein d'autres. Hein. Leur musique a été influencée par les événements historiques surtout et les mouvements artistiques et les styles de leur époque. Alors, les compositeurs français ont souvent été associés à la musique impressionniste, caractérisée par des harmonies complexes, des textures sonores riches et des mélodies évocatrices. Cependant, il faut savoir que leur contribution à la musique classique vient bien au-delà de l'impressionnisme. L'influence de ces compositeurs se manifeste également dans l'éducation musicale, où leurs techniques et innovations sont étudiées et enseignées. Cela garantit effectivement que leurs contributions ne seront jamais oubliées et continueront d'inspirer les générations futures. Et là, quand on dit qu'on remonte un peu plus loin que la période impressionniste, on commence par Jean-Baptiste Lully.
Et oui, donc il est né en 1632. Il est souvent considéré comme le fondateur de la musique baroque française. Alors, d'origine italienne, il s'établit en France où il travaille pour la cour du roi Louis XIV. Bravo. Voilà. Ses œuvres ont profondément influencé le développement de l'opéra et de la musique instrumentale en France. Lully était maître dans l'art de la tragédie lyrique, un genre d'opéra qu'il a pratiquement inventé. Sa manière de structurer les orchestres et ses innovations dans la composition ont laissé une empreinte vraiment durable. La musique de Lully ne se limite pas à son époque, elle traverse les siècles. Son mariage harmonieux entre le texte et la musique a posé les bases pour les figures emblématiques de la musique française. Même aujourd'hui, ces pièces continuent d'être interprétées, témoignant de leur caractère intemporel et de leur élégance et de leur grandeur.
Tout à fait. Et alors pour s'apercevoir de cette richesse donc de Lully, ainsi que de l'élégance et la grandeur qu'il a mis en place au niveau musical, on a décidé de vous faire entendre cette pièce magnifique tirée de l'opéra Le Bourgeois Gentilhomme, qui est la marche pour la cérémonie des Turcs. Bonne écoute.
Thank you.
C'est voilà, génial, hein, cette rythmique. Hein.
C'est magnifique. C'est toute la grandeur et l'élégance de Lully et de la musique française
à
classique.
À cette époque-là, à l'époque baroque, voilà. Avec toutes les percussions, là, j'espère que vous vous êtes régalé.
Ouais, c'est un super moment. Alors, on va continuer, voyez-vous, dans ce côté très élégant de la musique. Et là, on va aller avec Maurice Ravel. Maurice Ravel, c'est ce qu'on appelle le perfectionniste, c'est l'innovateur de la musique classique française. Contemporain de Debussy, ben, il représente également, je dirais, une figure incontournable de la musique française. Il est né en 1875. Et il est connu pour sa précision technique et son souci du détail. Bien que souvent associé à l'impressionnisme, son style intègre diverses influences allant bien évidemment de la musique classique au jazz en passant par le folklore espagnol par moment même. Et vous savez bien pourquoi, par rapport au boléro. Alors, avec une approche assez méticuleuse, il a élargi les possibilités de l'écriture orchestrale et pianistique. Et ses travaux mettre en lumière l'importance de chaque détail. Vous savez, on va chercher la finesse dans la musique et chaque nuance dans la création musicale.
Ah oui, c'est un grand orchestrateur. Hein. Alors, des compositions telles que, tu l'as dit, Boléro, Daphnis et Chloé, illustrent la capacité de Ravel à combiner complexité rythmique et harmonie sophistiquée. Sa maîtrise de l'orchestration et ses expérimentations sur la texture sonore continuent d'impressionner les musiciens encore aujourd'hui. Hein. Ravel a composé de nombreuses œuvres célèbres, hein, notamment le boléro, vous le savez, la valse, Daphnis et Chloé. Alors, justement, la valse, c'est une pièce pour orchestre qui a été inspirée par la danse viennoise et qui est une introspection dur à dire ça, d'une valse vue de l'intérieur d'après l'auteur lui-même.
Thank you.
une valse reprise par Ravel lui-même sur la base des valses viennoises. Vous avez vu quand même qu'il incorpore un petit peu de rythme hispanisant, on va dire, hein, espagnol avec ses petits tambourins. Mais ça, c'est toute la qualité et le génie de Ravel. Alors, on poursuit avec les compositeurs français. Et ben, ce coup-ci, on va aller vers un homme très connu, Hector Berlioz, bien évidemment. Grand compositeur connu pour ses symphonies expressives, comme la fameuse symphonie fantastique que l'on vous a déjà fait entendre et écouter dans d'autres émissions. Alors, Hector Berlioz, bien, c'était un compositeur qui était aussi chef d'orchestre, critique musical français, et il est largement considéré comme l'un, je dirais, des compositeurs les plus novateurs et influents de l'ère romantique. Alors, la musique de Berlioz, eh bien, elle se distingue par un style audacieux et dramatique, une orchestration non conventionnelle et son utilisation d'éléments programmatiques. C'est-à-dire que ses œuvres les plus célèbres incluent la symphonie fantastique, mais aussi le Te Deum, Harold en Italie, les Troyens en Espagne.
Oui, et en plus de ses compositions, Berlioz était également un écrivain et un critique prolifique. Il a beaucoup écrit sur la musique et était connu pour ses opinions tranchées et souvent controversées.
Hein. Ça, c'est vrai.
Ses écrits, comme le traité d'instrumentation et d'orchestration, ont eu un impact significatif sur le développement de l'orchestration et de la théorie musicale. On le lit encore aujourd'hui hein, dans les facultés.
Ouais, hein. Voilà.
Dans l'ensemble, Hector Berlioz reste une figure incontournable de l'histoire de la musique française et un représentant clé de l'ère romantique.
Alors, on s'est penché sur le Te Deum, qui est une magnifique pièce, qui est une des œuvres, je dirais, les plus monumentales d'Hector Berlioz. S'il nécessite un orchestre moins important que la Grande Messe des Morts qu'il a écrite, le recours alors compense cette relative diminution du nombre des instrumentistes. L'œuvre dure environ 50 minutes, vous imaginez, et utilise le texte latin du fameux Te Deum, auquel Berlioz, lui, eh bien, il a apporté quelques changements pour obtenir plus d'effets dramatiques.
Sinon, ce ne sera pas Berlioz.
Ben non, ce n'est pas Berlioz, sinon tout à fait. Et donc, la partition qu'il a reprise, eh ben, elle est dédiée au prince Albert de Saxe de Combourg-Gotha, qui était simplement l'époux de la reine Victoria. Écoutons ce Te Deum. voilà, ce magnifique Tédum de Berlioz. On ne pouvait pas faire une émission sans parler de Berlioz. et ce côté grandiose de l'œuvre que...
Ah, c'est la musique 3D, là. Grande sensation.
C'est grande sensation.
Oui.
Là, on va aller dans un autre côté, un petit peu plus, j'allais dire, subtil.
Enfin, oui.
Vous allez
délicat.
Voir. Délicat, voilà, avec un autre grand compositeur français qui s'appelle Gabriel Fauré, compositeur et organiste français. Mais il faut savoir qu'il fut l'un des principaux compositeurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Et sa musique, elle est réputée pour sa sophistication harmonique et sa beauté vraiment subtile.
Vraiment.
Et c'est vrai qu'il a ce génie, Gabriel Fauré, d'avoir écrit vraiment et d'être
dans
la subtilité des harmonies
extraordinaires,
tout à fait. Alors, l'influence de Fauré sur les compositeurs, je dirais, postérieurs, elle fut très importante parce que, notamment dans le développement de l'impressionnisme français. Et sa musique, aujourd'hui, elle est encensée pour son élégance, sa subtilité, sa profondeur émotionnelle, c'est vrai. Et elle reste vraiment très populaire, vous allez voir, c'est ce genre de musique qui reste vite gravé dans nos oreilles et dans nos mémoires, auprès des publics et interprètes. Bref, chez Gabriel Fauré, on n'a que des œuvres, je dirais, incontournables. Voilà.
Alors, l'une des œuvres les plus célèbres de Fauré, c'est son Requiem.
Eh oui, bien sûr.
Magnifique, hein. Une interprétation de la messe catholique des morts. Cette pièce se distingue par son ton doux et réconfortant, qui contraste avec le ton plus dramatique et sombre de nombreux autres Requiem chez d'autres.
Oui.
L'utilisation du soprano solo dans le mouvement Pie Jesu est devenue particulièrement célèbre et fameuse. Alors, écoutez-le. Précipitez-vous, parce que le Pie Jesu de Fauré, celui-là, une pépite. Hein.
Voilà.
Alors là, on va écouter une autre partie. On va écouter le Sanctus, pièce musicale que, d'ailleurs, si vous êtes bien attentif, on l'entend en ce moment dans une pub pour une certaine voiture. On est presque au paradis, là.
Wow. Que d'émotions, que de moments.
Qu'est-ce que c'est beau.
Subtil et fin. Alors, j'espère que vous avez bien vu ce petit passage.
Ah, l'envolée des ténors, là.
Lancé par les corps, avec les ténors derrière.
Oh, hein. C'était terrible.
Alors, regardez bien les publicités, puis vous m'en direz des nouvelles après. Vous allez vite voir que c'est bien quand des grands groupes comme ça, publicitaires, reprennent de la musique classique, surtout quand c'est aussi beau et aussi, je dirais, subtil, fin et plein d'émotions. Allez, on continue. On va être un peu chauvin quand même dans notre émission.
Hein,
on va être un peu avironné quelque part, parce qu'on ne pouvait pas faire une émission sur les compositeurs français sans parler de Francis Poulenc.
Bah oui.
Bah oui, parce que Francis Poulenc, il a des origines. Bah voilà, j'espère que vous le savez. Bah on va le dire après. On va vous présenter Poulenc comme un compositeur français du XXe siècle.
D'origine avéronnaise, je puis me permettre, son papa.
Par son papa, tout simplement.
Qui dirigeait une affaire familiale de produits pharmaceutiques, qui est devenue par la suite Rhône. Poulenc.
Et voilà.
Cocorico quand même.
D'origine d'Espalion.
Et oui,
voyez-vous. Voilà. Donc on est vraiment là.
Allez, on
est dans les racines avéronaises. Allez, puis on en est fiers. Donc on y va. Donc compositeur français du XXe siècle, il est né quand même à Paris. Hein, mais ça,
c'est pas grave, il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'avéronais dans le cas.
Et Poulenc était membre du groupe de compositeurs français connu sous le nom de Les Six. Vous savez, ces fameux six compositeurs qui se réunissaient ensemble et qui ont fait développer la musique du XXe siècle. Poulenc était considéré comme un compositeur important de son époque. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui, parce que sa musique est souvent jouée dans les salles de concert du monde entier. Et il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs français, je dirais comme l'a été Gabriel Fauré au début, mais sur la période du XXe siècle précis, comme l'un des plus grands compositeurs français du XXe siècle.
Alors, il était connu pour son style musical unique, bien à lui, qui combinait les éléments de musique classique et de musique populaire. Il a écrit de la musique pour une variété d'instruments, y compris le piano, la voix et l'orchestre. Parmi les œuvres les plus connues de Poulenc, on peut citer le concerto pour deux pianos, la sonate pour clarinette et piano, le Gloria. Il s'agit de l'une de ses œuvres sacrées les plus populaires, avec son Stabat Mater et ses litanies à la Vierge Noire.
Tout à fait.
Il a également écrit de la musique pour le théâtre et le cinéma.
Eh bien là, on va écouter un passage du fameux Gloria de Poulenc. Allez, faut être fier d'être avéronné. Voilà, ça c'est le côté très, très dynamique et très vivant
de Poulenc.
Allez écouter le Gloria, les Stabat, les Litanies, parce que c'est vraiment des pièces magnifiques. Et le génie de Poulenc à ce niveau-là vraiment a fait que le XXe siècle, la musique française était très riche et très dense. On continue, allez, on avance, toujours dans notre émission Pause Musicale, avec Charles Gounod, qui est un compositeur français de la période romantique, là aussi. Et il est surtout connu pour son opéra, vous savez, Faust, le fameux Faust de Gounod, qui est considéré comme l'un des plus grands opéras français de tous les temps. Gounod a également composé d'autres œuvres, bien sûr, de nombreuses autres œuvres, notamment des messes, des symphonies, des opérettes et des cantates. Mais sa musique est souvent caractérisée par son lyrisme et sa sensibilité, ainsi que par son utilisation de l'harmonie pour créer des effets émotionnels. Alors, en plus de son travail de compositeur, il faut savoir que Gounod était également un professeur de musique, mais vraiment renommé. Il a enseigné au Conservatoire de Paris et a influencé de nombreux compositeurs français de la génération suivante, tels que celui qu'on a écouté juste avant, Gabriel Fauré, bien évidemment, mais aussi Claude Debussy, voyez-vous, pas des moindres.
Pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais. Malgré sa renommée de son vivant, Gounod est aujourd'hui souvent considéré comme un compositeur mineur par rapport à ses contemporains tels que Berlioz ou Bizet. Cependant, son œuvre continue d'être appréciée et jouée dans le monde entier, donc en particulier son opéra Faust, dans lequel nous allons écouter le chœur des soldats de Faust, également connu pour son premier vers répété, tous les deux couplets « Gloire immortelle de nos aïeux ». C'est un air d'opéra pour chœur créé en 1859. Il est chanté au quatrième acte par les soldats revenant de guerre. Thank you. voilà. Ça, c'est de la
les
conclusion.
Les soldats sont
ça.
Partis dans leur caserne. Vraiment, c'est une œuvre magnifique. Je vous encourage à l'écouter parce que c'est vrai que c'est ce qu'on disait, quoi, le côté très lyrique de Gounod dans ses écritures est extraordinaire. Mais le Faust de Gounod, c'est un opéra magnifique à voir. C'est riche de couleurs, c'est riche de lyrisme par moments. Il y a de la poésie. C'est vraiment une très belle œuvre. Et vraiment, je comprends qu'elle ait été vraiment une œuvre qui a pu faire influencer beaucoup d'autres compositeurs. Et vraiment, moi, je craque, j'aime beaucoup. Enfin, bref, voilà. Allez, on va continuer avec un autre compositeur. Alors là, Jacques Offenbach. Bon, bien évidemment, dès qu'on prononce son nom, tout de suite, hein, la gaieté parisienne, la vie parisienne, ça revient. Mais compositeur français d'origine allemande, il est surtout connu, c'est vrai pour ses opérettes, mais qui ont connu, elles, un très très grand succès, surtout dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, Anne, un peu de connaissance d'Offenbach.
Alors, il est né à Cologne, en Allemagne, mais a passé la majeure partie de sa vie en France. Il a commencé sa carrière musicale en tant que violoncelliste.
Et oui.
On sait peut-être moins ça.
C'est le moins ça, tout à fait. Voilà.
Mais a rapidement commencé à composer de la musique pour le théâtre. Ses opérettes les plus célèbres comprennent Orphée aux Enfers, bien sûr, La Belle Hélène, La Vie Parisienne, entre autres.
Voilà,
ses œuvres ont été saluées pour leur humour, leur légèreté et leur musique entraînante. Offenbach a également composé de la musique pour le ballet, la musique de chambre et de l'opéra. Il a été un pionnier de l'utilisation de la musique dans le cinéma et certaines de ses compositions ont été utilisées dans des films célèbres comme Vous devinerez. Moulin Rouge,
Moulin Rouge, voilà.
Et Midnight in Paris.
Avec ses fameuses actrices.
Bien que certaines de ses œuvres aient été critiquées pour leur manque de profondeur et pour leur légèreté, Offenbach reste un compositeur important dans l'histoire de la musique française. Sa musique a influencé de nombreux compositeurs qui ont suivi et ses opérettes continuent d'être jouées et appréciées dans le monde entier.
Encore aujourd'hui, tout à fait. Alors nous, on s'est arrêté sur l'opéra La Belle Hélène. Puisque c'est quand même l'une des œuvres, je dirais, les plus connues d'Offenbach. C'est une œuvre assez parodique, puisqu'elle se moque des mœurs bourgeoises et cléricales au sein de la cour de Napoléon III. Alors, ça se prélasse au bain de mer, représenté sous les traits des rois de la Grèce antique, qui découvrent l'adultère d'Hélène, voyez-vous, qui est la fille de Zeus et de Léda, épouse du roi de Sparte et amante de Paris, le fils du roi de Troie, qui lui, pour se cacher un petit peu et pas se montrer tel qu'il est, se déguiser en berger.
Alors,
on va vous faire écouter l'ouverture de cette opéra de La Belle Hélène et vous allez voir vraiment tout le génie humoristique et la qualité musicale d'Offenbach dans ce genre de pièce.
Thank you.
C'est du rythme, hein, c'est du vivant, c'est de l'Offenbach. Et puis avec elle, on s'est
j'ai eu un flash. Alors, pour les gens, voilà, pour les gens d'un âge certain ou d'un certain âge, je sais pas si moi ça m'a fait un flash. J'ai entendu dans ma tête, il grille même la baguette, oui. C'est le grille tout pain, il grille tous les pains. Et voilà, oui, c'était une pub pour un grille-pain.
Voilà, d'une certaine époque. Vous voyez comme quoi même Offenbach et la belle Hélène avaient servi pour de la publicité.
Si vous êtes attentif dans les pubs, il y a beaucoup de musique classique cachée derrière. On avait fait une émission dessus. Hein.
Voilà, oui, on en a fait même deux
émissions.
C'était
rigolo. Hein.
Vous pouvez les retrouver en podcast sur le site de CFM Villefranche. Voilà, et écoutez, émission pause musicale. On continue. Alors là, avec un compositeur qui est d'origine polonaise, qui a beaucoup passé de temps en Pologne, mais aussi qui a beaucoup passé de temps en France, et qui a été reconnu comme l'un des plus grands compositeurs, de la période romantique, c'est Frédéric Chopin. Et c'est aussi l'un des plus célèbre pianiste du 19e siècle. Alors, sa musique est encore aujourd'hui l'une des plus jouées et demeure un passage indispensable à la compréhension du répertoire pianistique universel. Avec Franz Liszt, bien connu là aussi, il est le père de la technique moderne et de son instrument qui influence toute une lignée de compositeurs modernes comme Debussy, Scriabine, Ravel, Rachmaninoff, pour les Russes, voilà. Donc depuis 1927, l'un des plus prestigieux cours de piano classique est entièrement consacré à son œuvre. Il faut savoir que c'est le prix Chopin, c'est le gagnant est vraiment considéré comme le plus grand des pianistes à ce moment-là de ce concours international.
Ah oui, là c'est d'un haut niveau. Les Nocturnes opus 9 de Chopin sont trois nocturnes pour piano seules composées par Chopin entre 1830 et 1832. Ils sont dédiés à son élève Marie Pleyel. Alors c'est un nom connu, hein, une des plus célèbres pianistes virtuoses du 19e siècle, épouse de son grand ami Camille Pleyel, héritée des pianos Pleyel et fondateur de la salle Pleyel à Paris.
Voilà. Une grande salle où on écoute beaucoup d'œuvres musicales classiques et d'autres du piano.
Et voilà. Ils sont donc ces nocturnes publiées à Leipzig en mars 1832, puis à Londres chez Wessel et à Paris chez Schlesinger en 1833. Les nocturnes numéro 1 et 2 parmi ces 21 font partie des œuvres les plus célèbres de ce maître de la musique romantique. Il a composé ce nocturne numéro 2 à l'âge de 21 ans. C'est pas mal, hein, quand
pas
même.
Mal,
hein.
Pas mal.
En mi bémol majeur, il fait partie de ses œuvres les plus connues. Il fait 34 mesures, écrites en 12-8 et a une structure similaire à une valse.
tout en finesse, tout en beauté, tout en douceur. Ce nocturne de Chopin est vraiment superbe. Voilà, c'est un moment de pause, un moment de vraiment de douceur et d'évasion que l'on vous a proposé parce que ouais, c'est un génie. C'est vraiment un homme qui a fait développer le piano et qui a mis le piano à un niveau assez exceptionnel. Allez, on arrive à la fin de notre émission, mais je ne pouvais pas. Sincèrement,
sans
j'ai
son
essayé.
Compositeur chouchou.
Voilà, je ne pouvais pas arrêter l'émission comme ça, même si Chopin, je trouve ça magnifique, rien à dire sur ce nocturne, mais non, je peux pas finir comme ça. Alors, on va se quitter avec compositeur que
obligé.
Je raffole, Camille Saint-Saëns. Voilà, compositeur, pianiste et organiste français qui a marqué l'ère romantique de la musique. C'est un enfant prodige quand même. Il a commencé à composer très très jeune, avant de devenir, je dirais, l'un des compositeurs les plus influents de son époque. Alors, malgré son succès, il faut savoir que Saint-Saëns, il était tout simplement d'une très grande humilité et il fuyait plutôt la lumière des projecteurs, c'est-à-dire qu'on le voyait très peu dans les rencontres modernes ou autour des journalistes. Il était également, surtout même, un pédagogue respecté et a écrit plusieurs ouvrages sur la théorie et l'histoire de la musique.
Très respecté, très rigoureux.
Très important à cette époque-là. Je dirais qu'en fin de compte, Camille Saint-Saëns, c'est un compositeur qui est talentueux et influent, qui a marqué pour moi la musique classique de son empreinte de façon indélébile. Alors, l'une de ses œuvres les plus célèbres, c'est... Et
que c'était interdit de le jouer de son vivant.
C'était le Carnaval des animaux. Ça, on vous en a souvent parlé dans beaucoup d'émissions. C'est une suite musicale humoristique qui représentait différents animaux dans des styles musicaux variés. Et puis, un autre opus majeur, et c'est là où je veux en venir, et on va conclure par ça, c'est sa symphonie avec orgue. Aux impressionnants solos d'orgue, n'est-ce pas?
La symphonie numéro 3 en ut mineur, opus 78 dite, symphonie avec orgue, est l'une des œuvres symphoniques les plus célèbres de Camille Saint-Saëns. Écrite entre 1885 et 1886, elle est dédiée à son ami Franz Liszt, décédé le 31 juillet 1886. Il s'agit de sa cinquième symphonie, le musicien ayant renié ses œuvres de jeunesse. Il s'agit d'une commande de la Royal Philharmonic Society de Londres et sa création a lieu le 19 mai 1886 à Londres sous la direction de Saint-Saëns. La création française a lieu à Paris en janvier 1887 sous la direction de Jules Garcin avec l'orchestre de la Société des concerts du conservatoire et le compositeur à l'orgue, s'il vous plaît.
Ah oui,
c'est quand même pas...
Quand vous avez 500 à l'orgue pour une œuvre pareille,
ça devait être quelque chose quand même.
Énorme.
Son orchestration est particulièrement étoffée, avec notamment un piano à quatre mains pour les deux dernières parties et un orgue pour les deuxième et quatrième parties. Ces deux instruments ne jouant que peu ou pas du tout comme soliste. Bien qu'étant souvent découpé en quatre parties, Saint-Saëns a écrit cette symphonie en deux mouvements, la structure traditionnelle en quatre mouvements étant conservé.
Eh oui, quand même. Alors, juste une petite anecdote, lorsqu'on a demandé à Saint-Saëns s'il ne composerait pas une autre symphonie suite à celle-ci, le musicien répondit, écoutez, non, j'ai tout donné là et tout ce que je pouvais donner. Voilà. Et
c'est bien résumé quand même.
Cette troisième symphonie, il est vrai, fait la preuve d'une maîtrise, je dirais, absolue, tant sur le plan formel que dans l'orchestration, qui est toujours dense et équilibré.
Alors là, on va vous faire écouter la pépite finale. Alors,
voilà.
Si jamais un jour vous avez la symphonie donc 3 avec orgue de Saint-Saëns en concert, précipitez-vous.
Ah oui, tout à fait. Allez, un grand moment. cette fin, ce final magnifique. On va vous laisser sur ce grand moment musical important et intense. On vous remercie de votre écoute. On vous remercie d'être à nos côtés depuis autant d'émissions. Merci Anne pour toutes ces explications. Puis je vous dis à bientôt.
Merci Jean-Luc et on vous souhaite à tous de bons moments musicaux et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Pause musicale.
L'émission de l'association Toulon-Jacquoise, le GERFO.
Le rendez-vous mensuel qui vous propose un autre regard
sur la musique
et le patrimoine.